Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à chacun, nous allons ouvrir notre Bible, si vous voulez bien. Alors, deux lectures. La première, nous allons la faire dans Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, je répète, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Ça fait partie des signes extraordinaires, surnaturels, qui ont suivi la crucifixion de Jésus. Alors, simplement pour nous remettre en mémoire, vous savez que c'est tout simplement l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu depuis toujours. Et au moment où Dieu va demander à Moïse, dans la construction du tabernacle, de mettre un voile bleu, il est bleu, avec quelques effigies de chérubins dessus, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait dans cette séparation par le fait de ce voile une interdiction de l'homme de pénétrer dans le lieu très saint seulement. Une fois par an, le souverain sacrificateur d'Israël pouvait y apporter l'expiation des péchés du peuple. Et il est quand même assez étonnant et symbolique, parce que c'est un symbole, qu'au moment où Jésus est mort pour les hommes et a accompli finalement le salut complet, total, parfait de l'humanité, le voile à ce moment-là s'est déchiré, il s'est entrouvert. Pour nous montrer que ce qui avait été pendant des siècles et des siècles durant, eh bien, une défense de pénétrer dans le lieu très saint, aujourd'hui, eh bien, est à l'évidence l'invitation de Dieu à pouvoir nous approcher simplement, librement de lui, et pour quiconque, pour tous les hommes sur cette terre. Voilà, ça c'est un petit peu pour tout simplement nous remettre en mémoire, c'est tout simplement le voile déchiré. La deuxième lecture que nous allons faire, nous allons l'entreprendre dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Et vous allez voir qu'il y a un sens à tout cela. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Alors, que je retrouve, voilà. Alors, nous avons devant les yeux ce texte. Il est dit ceci, verset 12. Hein. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Entendez par là que le voile disparaît en Jésus. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, l'Ancienne Alliance, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Alors c'est vrai que quand on lit Paul, c'est un peu compliqué. Mais il y a naturellement une approche qui peut nous donner finalement de comprendre les choses. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est un sujet qui a été souvent controversé, qui est incompris. Pas incompris des gens de l'extérieur parce que ils ne sont pas rentrés dans toutes ces subtilités, mais souvent incompris au milieu des chrétiens, des enfants de Dieu, même au sein de notre église, de nos églises évangéliques. Alors je m'expliquais. Qu'est-ce que cette histoire de voile? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu tellement de polémiques autour de la question. Mais je voudrais vous parler de ce qui nous est finalement enseigné à travers le message de l'Évangile. Alors, il est question du visage voilé de Moïse. Il est question de ce voile qui est déchiré dans le temple au moment de la réalisation de notre salut en plénitude. Je voudrais aborder une question, parce que ça a toujours été depuis des années que je prêche, finalement, en quelque sorte, ce que le Saint-Esprit m'a toujours mis sur le cœur, et vous l'avez constaté, pour les familiers de cette église, qu'il y a quelque chose qui doit prévaloir chez un enfant de Dieu, un chrétien. Ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Ce n'est pas la loi, c'est la foi. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des hommes et des femmes du Nouveau Testament. Ça, c'est important. Et j'aimerais donner brièvement une définition de la loi qui se trouve dans une pensée résumée que l'on appelle le légalisme. Comprenez? Le légalisme. Et le légalisme religieux. Parce que des légalismes, il y en a partout. Il y en a en politique. Il y en a dans le monde social. Dans le monde administratif, il y a des gens, c'est règle sur règle, c'est la loi, hein, c'est tout. Hein. Donc, c'est un esprit qui est répandu dans, finalement, l'humanité. Mais moi, je voudrais vous parler du légalisme religieux. C'est autre chose. Alors, la définition du dictionnaire est la suivante. Le légalisme religieux, c'est le souci, voire même peut-être l'obsession, de respecter minutieusement, finalement, la lettre de la loi. Ce que dit la loi. Et les formes qu'elle prescrit, cette loi. Donc, il y a une lettre, elle est intangible, et on ne va pas la discuter, puisque cette lettre, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais il y a une grande différence entre la lettre et l'esprit. Et Paul le dira, je le cite de mémoire, que la loi tue, mais l'esprit vivifie. Donc la vie, elle est de ce côté-là. Elle est dans la dimension de l'esprit, le monde spirituel. Ce qui a donné, et ce que nous constatons encore après 21 siècles de christianisme, et ça c'est ce qui est incompréhensible, le formalisme, le ritualisme, le fondamentalisme et l'intégrisme. Et tout cela repose sur un fondement qui est la crainte et la peur. La crainte et la peur. L'exercice religieux dans la crainte et dans la peur. Une conscience en permanence troublée. Il y a deux forces en opposition totale. Il y a l'orgueil de la loi quand on arrive à mettre en pratique quelques petits commandements. Vous savez qu'il y en a 319, je crois, dans la loi de Moïse. Et quand la Bible nous dit que si vous enfreignez un, vous avez perdu sur tous les autres. Donc, c'est un couperet de guillotine. Hein. Parce que qui peut dire qu'il n'a jamais menti? Qui peut dire qu'il n'a jamais fait ceci ou cela? Voilà. Le ne pas de Dieu, c'est cela. Et quand on comprend bien le sens, Dieu ne nous a pas fait nous a pas donné ce ne pas, cette négation, pour nous empêcher de tourner en rond, mais pour nous préserver. C'est autre chose, c'est une autre façon d'approcher les choses. Et il y a donc l'orgueil de la loi et la simplicité de la foi. Et la foi s'accompagne toujours de la paix, de la joie et de l'amour. Nuance. Avant de... C'est une petite introduction. L'orgueil légaliste, tel que nous le trouvions chez les pharisiens, et que Jésus va condamner avec beaucoup de rigueur. Jésus va être beaucoup plus souple avec les gens de mauvaise vie et les prostituées, qui va ne l'être avec ces collets montés et ces gens qui, finalement, veulent mener le monde à leur façon. Donc, l'orgueil légaliste est dû à sa force apparente à soumettre toute résistance à travers la culpabilisation, à travers la domination, et je l'ai dit tout à l'heure, la crainte et la peur. On ne suit pas Dieu par amour, on le suit parce qu'on a peur de Dieu. Et puis il y a également la simplicité de la foi, en contrepartie, qui provient, et cette simplicité de la foi provient de son apparence faiblesse. Oui, c'est comme cela, hein ? Mais qui est en fait une force de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien la peur est remplacée par la paix. Et puis une approche toute simple. Alors on va aller un peu plus loin dans nos réflexions ce matin. Comprendre les Écritures, parce que je pense que c'est le souci de chacun d'entre nous, comprendre les Écritures, la volonté de Dieu, l'esprit que Dieu a voulu nous transmettre, au travers du voile de la lettre. La lettre qui obscurcit les intentions de Dieu, parce que nous voyons que les exigences, nous ne voyons que les exigences sans vie de la loi. Et vous savez, c'est des implications très profondes sur une église, très profondes sur un pasteur, et puis très profondes sur chacun d'entre nous. Soit nous allons accéder à la véritable liberté, à la liberté, à la libération, à l'affranchissement, ou alors nous allons nous recroqueviller, nous allons devenir souvent des personnages durs, juges et intransigeants, avec nous-mêmes et avec les autres. Quelquefois, on est plus indulgent avec nous-mêmes qu'avec les autres, parce qu'il y a la loi et la manière dont je la comprends. Loi divine que jamais personne n'a pu accomplir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous avions plu, si les Israélites, parce que c'était eux les détenteurs au départ de la loi mosaïque, s'ils avaient pu observer la loi et l'accomplir dans la perfection, je vais vous dire la grande nouvelle, c'est que Jésus ne serait jamais venu. Il n'y aurait jamais eu le Nouveau Testament. Il n'y aurait jamais eu la croix. Il n'y aurait jamais eu la résurrection. Tout ça, ça serait dans l'inconnu. On n'aurait jamais, finalement, parlé d'une nouvelle alliance avec Dieu. Mais c'est parce que, justement, la loi a fait faillite. La loi a été incapable d'accomplir. Paul a des mots chocs, parce qu'il en parle. Et Paul... Malgré ses apparences de sévérité et de fermeté, hein, c'était pas un légaliste, Paul. Parce que si vous lisez l'Épître aux Galates, vous allez voir un peu ce qu'il dit, hein, ce qu'il écrit. Hein. Alors Paul a des mots chocs pour décrire cet état de choses, le légalisme, mort et condamnation. C'est tout. C'est les mots qu'il prend dans Romains, dans Galates, dans Éphésiens et dans tout ce que vous pouvez lire. Et ça, c'était le régime de l'ancienne alliance de la première partie de notre Bible, l'histoire du peuple d'Israël, où il y a tant de choses formidables et des instructions à retenir. Mais tout dépend comment nous faisons la lecture. Et régime de l'ancienne alliance, ce qui conduit à essayer, je dis bien, à tenter, à essayer de vivre strictement d'après la loi et qui pousse ou qui nous induit, consciemment ou non, à un sentiment permanent d'échec. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui sont découragés, qui sont quelquefois épuisés moralement et spirituellement parce que ils ont tellement fait d'efforts qu'à un moment donné, ils se disent « mais on n'y arrive plus ». Qui nous amène à un ressenti ou un pressenti en conscience de condamnation et de culpabilité. Nous avons, nous, en tant que conducteurs spirituels, besoin de nous employer, non pas à culpabiliser les gens, mais à les amener à se déculpabiliser, vous comprenez ? Et ça, c'est un travail. C'est un travail. D'amener les gens à vivre heureux, dans la paix, dans la joie, d'être heureux de pouvoir le dimanche matin, tous ensemble, louer le Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. et de dire « Seigneur, je m'approche de toi, mais je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête. » Eh oui! C'est terrible parce que quelquefois, moi, ça me fait pleurer, franchement. De voir des gens malheureux alors qu'ils sont à Jésus-Christ et de pouvoir chanter « Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. » Excusez-moi, c'est pas comme ça que j'entends les choses. Il y a tant de beaux contacts, de beaux cantiques qui expriment notre joie, la joie du chrétien d'être heureux de connaître Jésus-Christ. Seigneur, condamnation et culpabilité qui amènent le découragement, qui amènent la désespérance de vivre pour plaire à Dieu, en y mettant finalement toutes nos forces au lieu de s'abandonner entièrement entre ses mains. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et si je me dis que je suis fort parce que j'essaie de faire de toute force la volonté de Dieu en essayant point par point, méticuleusement, avec beaucoup de minutie, de m'efforcer à mettre la loi de Dieu en pratique, Seigneur, j'y arrive pas. Moi, je peux pas y arriver. Et vous savez, il y a deux langages dans le monde chrétien. Il y a un langage légaliste et un langage de la grâce et de la foi et de l'amour en Dieu. Et je veux vous dire, ça change tout dans la vie. Ça change tout parce que le bonheur, ça se voit sur les visages. Ça se voit dans la vie des gens. Parce que je voudrais quand même vous dire, moi je suis un révolutionnaire un petit peu sur les côtés. Mais quand même, c'est quand même formidable de connaître Jésus-Christ, de connaître sa parole. Et un pasteur n'a pas besoin de se servir de la loi de Dieu pour conduire une église. C'est la loi de l'amour, du respect de l'un et de l'autre, et de cette vie qui coule d'en haut par le Saint-Esprit. Parce que si on doit faire marcher les gens par la peur et la crainte, ben moi je suis plus pasteur. Parce que vous me suivez pas moi, vous suivez le Seigneur. Vous suivez pas un mouvement, vous suivez pas une église, vous suivez Jésus. C'est lui qui vous a sauvé, c'est pas moi. Et dans toutes les religions chrétiennes, évangéliques ou non, je peux vous dire que on a été éduqués comme ça avant de nous convertir, vous comprenez? Les péchés mortels, les péchés véniels, et puis ceci et cela, et l'enfer, et le paradis, le purgatoire. Dites donc. Waouh, il fait chaud là. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous devons comprendre de ta pensée. Il y a une mise en garde. Une mise en garde qui nous est donnée par Paul. Moi, j'aime bien Paul. Parce qu'on a dit que il était dur, il était terrible, mais c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas compris. Écoutez. Dans Galates, chapitre 5, je lis le texte comme ça. Ça vous dérange pas, Vous me le dites, parce que autrement... Il y a longtemps que j'ai pas eu un dimanche, d'ailleurs, entre parenthèses. Il est dit ceci, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire... » Ça, c'était les traditions, le ritualisme, les formules, vous comprenez? Bon, c'est un détail, la circoncision, mais c'était quelque chose de très important pour les Juifs. Mais c'est comme si je vous disais aujourd'hui, ben, vous devez faire ceci et tout ça, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être perdu. Alors voilà. Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois que tout homme qui se fait circoncire, qui se met sous la loi, eh bien, qu'il est tenu de pratiquer de la loi entière. Et les paroles de Paul sont terribles après. Il dit ceci. Vous êtes séparés de Christ. Pour un chrétien, être séparé de Christ, mais c'est inimaginable. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, Seigneur. Épargne-nous cela, Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, non pas de la nôtre, mais de celle de Christ qui est mort à ma place. Paul l'avait bien compris, Il l'écrit. Écoutez, je vais peut-être pas rester longtemps pasteur, si je continue. Nos églises sont remplies de gens au demeurant très sincère. Je le constate. Mais dont le christianisme, dont la pensée, l'esprit de leur démarche vers Dieu, les rend malheureux. Vous êtes heureux? Oui, je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Alors, J'ai souvent rencontré des frères et des sœurs qui sont malheureux, des frères sincères, des frères et des sœurs que l'on aime, mais ils sont malheureux. C'est ça le problème. Car ils sont malades dans leur âme. C'est leur âme. C'est leur moi profond. Parce que je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. Il y a l'âme et l'esprit. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et tout ce qui fait partie de la loi, c'est l'âme. C'est le religieux. C'est le religieux qui est en nous. Et l'esprit, c'est l'autre dimension. Et elle nous élève vers le ciel. L'âme nous ramène vers la terre. Mais l'esprit nous amène vers l'oxygène du ciel. Et là, on respire. Et ils sont malheureux dans leur âme. Parce que vous savez, leur âme, elle est voilée. Comme le visage de Moïse. Elle est voilée, leur âme. Tout en leur donnant, finalement, l'impression à eux et l'impression aux autres chrétiens qui les voient, eh bien qu'ils se portent bien. Mais ils sont malades de l'intérieur. Ils sont malades de la loi. Ils sont malades des exigences. Ils sont malades de ceci et cela. Ils ne sont pas heureux, tout simplement. La réalité de leur existence, c'est qu'ils sont en dualité, en conflit, en combat à l'intérieur, en lutte antérieurement. Je fais bien, je fais mal. Bah écoutez, si on doit passer notre vie à cela, on va pas avancer, hein. On a une conscience, naturellement. Et ils sont en dualité, livrant un combat incessant, aussi bien qu'épuisant. C'est pour ça que quelquefois, il y a des frères et des sœurs qui arrivent à l'église et ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Ils viennent en pleurant. Alors si vous ressortez avec joie, moi je suis content. Mais quand vous venez en pleurant et que vous repartez en pleurant, c'est pas normal, hein. Pas normal. Épuisé, fatigué, lassé. Et c'est parce qu'il y a un combat à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont toujours en culpabilité. Le résultat, nombreux sont ceux qui finissent à un moment donné par baisser les bras parce qu'ils n'arrivent plus à supporter. Et vous savez, ces gens-là, quelquefois, eh bien, ils quittent la communauté. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu parce qu'ils pensaient y arriver par eux-mêmes alors qu'ils n'avaient rien compris de ce qu'il fallait faire. Vous savez faire du vélo? Quelle question. Vous savez que quand on est sur du vélo, sur un vélo, on a à peu près, et quelquefois moins, n'est-ce pas? On a un petit espace et on tient en équilibre. Mais vous tiendrez en équilibre que si vous pédalez. Ah oui, parce qu'autrement vous allez tomber, hein. À moins que vous restiez comme ça. Quand vous êtes à faire de la natation, bon, on peut flotter, hein, c'est vrai, mais si vous voulez avancer, il faut brasser un petit peu, hein. Ben, c'est toujours les mêmes principes. Je crois que il y a une question de confiance. Quand je monte sur un vélo, on fait confiance. Je me pose pas en disant, je monte sur mon vélo, est-ce que je vais tenir ou pas tenir? Je me pose même plus la question. Au départ, peut-être quand j'étais petit garçon, j'ai appris à faire à 4 ans, hein, du vélo. Enfin, vous savez tout maintenant. Mais bon, toujours est-il que, ben voilà, on se pose pas la question. On s'abandonne, on fait confiance, on se laisse porter, tout simplement, et ça avance. Mais quand on reste crispé sur une chose, on dit, Seigneur, mais, oh là là, ouh là là, de ce côté-ci, de ce côté-là, etc. Mais vous n'avancerez jamais, vous serez toujours malheureux. C'est tellement beau quand on fait du vélo, qu'on avance et que le vent vient vous souffle dans les voiles. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Mais ce sont des choses simples comme ça qui nous font finalement, eh bien, peut-être réfléchir. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras en disant, mais j'y arriverai jamais. Seigneur, tu me demandes des choses impossibles. Et vous savez que il y a un apôtre qui dit ça, qui écrit, je ne sais pas si c'est Pierre ou Jacques, il dit, mais ces commandements ne sont pas pénibles. Mais il faut bien les comprendre. Il faut bien les saisir dans l'esprit et non pas à la lettre. Ils ne sont pas pénibles. Moi, j'ai découvert que c'était pas pénible de suivre le Seigneur. Vraiment. Et je voudrais aussi vous communiquer ces talents et ce, hein, c'est pour que vous puissiez avancer avec nous. Et nous voyons que ces chrétiens se posent la question, ils baissent les bras, parce qu'ils ne parviennent jamais à bien faire ce qu'ils croient devoir faire pour satisfaire la volonté de Dieu. Le devoir. La loi, c'est le devoir. Vous savez, les messieurs qui sont au coin des rues, là, avec un képi. Hein. Et, attendez, hein. Eh oui, c'est le devoir, c'est la loi, c'est l'obligation. Mais heureusement qu'il y a une loi, hein, dans la vie publique et dans la vie, chose de la vie, naturellement. Parce qu'ils croient devoir faire. Mais si vous croyez devoir faire, qu'est-ce qu'a fait Jésus alors? Il n'a rien fait. C'est lui qui a tout fait. et moi je dois me confier, je dois me confier dans ce qu'il a fait pour moi. Parce que ma justice, c'est pas la mienne. C'est pas parce que je suis un bon garçon qui dit « Seigneur, eh bien voilà, j'ai fait ta volonté, ceci et cela. » Mais le Seigneur sait très bien tout cela. Mais la chose qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous croyons. C'est pas de faire, mais c'est de croire. Et après, une fois que je crois que je suis implanté dans une bonne connaissance, finalement de la volonté de Dieu, ben je ferai. Mais je ne ferai plus par moi-même. Parce que si Christ est en moi, alors à ce moment-là, tout est changé naturellement. Et je parviens à ce que l'on appelle le repos de la foi. Il y a 2 ans, je crois que j'ai fait toute une série sur le repos de la foi. Vous savez, sur Paul, Pierre qui marche sur les eaux, là, où on se laisse porter. Voilà, ça c'est important. Dans Éphésiens chapitre 2, je vais simplement rappeler ce principe. Et au verset 10, chapitre 2, écoutez, c'est les fondamentaux des églises protestantes évangéliques. Hein. Ça, c'est Luther qui a retrouvé ça quand il s'est converti, quand il a quitté le catholicisme, alors qu'il était moine. Et il a découvert en lisant la Bible ces paroles. Écoutez, elles sont magnifiques. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, on le dira jamais assez, hein. Par le moyen de la foi. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu crois qui te sauve. Et cela ne vient pas de toi, ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, merci Seigneur. Hein. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi j'ai parlé de l'orgueil de la loi. Parce que quand j'arrive à faire quelque chose, alors je suis content. Je suis fier. Seigneur, tu dois être content de moi, parce que si j'étais pas là, tu sais, hein, la terre, elle serait pas comme ça. Hein. Je suis quand même quelqu'un d'important. Mais vous souriez, hein, mais c'est véritablement le langage que tenaient les pharisiens. Hein. Et là, ça exaspérait Jésus. C'est pas par les œuvres, mais tout simplement en croyant. Alors s'il y a quelque chose à faire, nous sommes son ouvrage. Mais son ouvrage parce que c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés comment ? Il nous a créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que nous n'avons pas préparées, mais que lui a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Ça va ? Vous comprenez ? Non, mais c'est simple. Hein. Moi je dis l'évangile est compréhensible par un petit enfant. Et on se demande comment on a retourné les choses pour en faire un carcan et une prison. Et rendre les choses difficiles alors que c'est si simple. Lorsque quelqu'un a saisi le principe de la grâce, le voile est ôté. Le voile est ôté. Dans Galates, on y retourne parce que là, il y a vraiment une leçon hein, dans Galates. Lisez Galates tous les jours et puis tout le reste. Hein. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Galates ? Écoutez cette parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'y mets d'autres mots. C'est pour la paix, c'est pour la joie, c'est pour l'épanouissement. C'est pour que vous soyez des hommes et des femmes faits. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Attention aux prédications que nous pouvons entendre. Attention aux bouquins que nous lisons. Il y a des bouquins qui sont tellement étroits et qui mettent les gens dans une culpabilité permanente et qui étouffent, qui enlèvent véritablement la respiration des enfants de Dieu. On respire parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cet oxygène et on est heureux de respirer cet air-là. Après avoir été quelquefois dans notre enfance ou dans notre éducation, eh bien là, être soumis à des commandements d'église et toutes sortes de choses, mais on a passé cela. Faisons attention parce qu'on a souvent critiqué les églises historiques dont nous sommes issus les uns et les autres. Et quelquefois, dans nos milieux, nous faisons pire qu'eux. Oui, pire. Alors j'en arrive justement à devenir des hommes adultes. Parce que ce voile de la loi, c'est un pédagogue utile. Attendez, je n'ai pas dit que la loi n'était pas utile. Un pédagogue utile. Et qu'est-ce qu'un pédagogue ? Eh bien, un pédagogue, c'était un esclave qui était au service d'une grande maison. Un esclave, à l'époque, très courant. Et il avait pour mission d'emmener les enfants du maître de cette maison chez un précepteur. Pédagogue, ça donne le mot enfant, pédo, enfant. Donc c'était un esclave. Et j'ai lu, hein, je me suis documenté quand même. Il les emmenait à l'école. Sur le chemin de l'école, il était souvent assez rigoureux. Il les tenait, mais ça faisait partie de l'éducation. Il les emmenait chez un précepteur qui leur enseignait après les, bah, tout simplement la connaissance de la vie, etc. Hein, les connaissances, voilà, dont ils avaient besoin. Alors, c'est pas lui qui enseignait, mais il préparait à l'enseignement. Et vous savez, aujourd'hui, le précepteur, c'est le Saint-Esprit. Eh oui, c'est lui qui nous enseigne et qui nous enseigne toutes choses et qui nous conduit dans la vérité. Voilà, qui nous conduit dans la vérité et dans la liberté. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. C'est bien, je ne veux même pas avoir à faire de prédication, vous allez la faire, je pose une question, vous répondez, c'est formidable. Mais ce pédagogue qui est la loi, avec sa sévérité, sa rudesse, n'est que temporaire. Autrement, on n'aurait pas le Nouveau Testament aujourd'hui. N'est que temporaire. Et il disparaît lorsque nous cessons d'essayer de faire par nous-mêmes les œuvres de Dieu. Et que nous comprenons qu'il faut simplement faire confiance au Seigneur au lieu de faire à la place du Seigneur. Qu'est-ce qui te plairait, Seigneur? Mais il y a beaucoup de choses qui plaisent au Seigneur. Quelle est l'œuvre de qui plaît dans la volonté de Dieu? C'est dans l'évangile de Jean. C'est les disciples qui ont posé ça, ou les détracteurs, ils ont dit, mais quelle est l'œuvre que nous devons faire pour plaire à Dieu? Vous savez ce que Jésus répond? L'œuvre par excellence que vous devez faire, c'est que vous croyez. Et pas que vous fassiez, que vous croyez. Le voile ôté, à ce moment-là, nous voyons clair. Et nous avons tous commencé par notre conversion, souvent dans le légalisme, parce que c'est naturel à nous, même si nous n'étions pas dans une église légale, une église de légalistes. Et à un moment donné, nous sommes tellement encombrés par notre éducation première, religieuse. Et ça fonctionne comme ça. L'homme par nature est religieux et il est légal, légaliste. Et à ce moment-là, il y a une chose qui était formidable, enfin moi je l'ai vécu comme ça, c'est que c'est comme une illumination. Et une vie qui devient, mais alors, qui s'illumine et qui rayonne, c'est autre chose. Hein. Quelle libération et quelle beauté de pouvoir être libre en Jésus-Christ. Ah oui, c'est une vérité. Alors, là où est l'esprit, là est la liberté. Et chacun doit se poser la question, mais est-ce que je suis réellement libre en tant que chrétien? Est-ce que je suis libre dans mon milieu? Est-ce que je suis libre dans ma conscience par rapport à moi-même? Est-ce que je suis libre par rapport à mes autres frères et sœurs? Est-ce que je suis libre par rapport au pasteur? Alors, vous souciez pas pour moi. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais il y a tellement de contraintes. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans toute la vie, même la vie sociale autour de nous. Hein. Il y a des gens qui sont malheureux toute leur vie parce qu'il y a ceci, il y a cela. Alors, nous, qui plus est, ayant la connaissance du Seigneur, on devrait être d'autant plus libre et affranchi. Hein. Là est la liberté. Nous allons prendre cet exemple fameux du voile de Moïse. Quand Moïse est descendu du Sinaï, où il avait reçu les oracles de Dieu, son visage brillait. Il avait été en contact. Il était monté sur la montagne, il n'était pas resté dans la vallée. Hein. Il était monté sur la montagne, il s'était approché de Dieu. Il n'avait pas vu Dieu, mais il avait entendu. Et il avait reçu les oracles. Et son visage, en redescendant, était tout illuminé. Vous savez, c'est la joie. Hein. Quand on tourne nos regards vers lui, nous dit le psaume, on est rayonnant de joie. Mes frères et sœurs, je vous demande pas de faire un effort, mais rayonnez de joie du salut que Dieu vous a donné. Vous vous rendez compte? Parce que on est des lumières. Rayonnez. Vous savez, c'est triste hein, quand on voit un chrétien qui est terne, qui est éteint. Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas, ce n'est pas un jugement, mais c'est une constatation. On devrait toujours pouvoir, se rencontrer avec le sourire, et puis, qui plus est entre nous, mais avec ceux du dehors, hein, pour leur donner envie. Hein. Vous êtes le sel, et le sel, ça donne faim et soif, ça donne soif en tous les cas. Hein. Ça, on a besoin hein, de tout cela. Alors, son visage brillait parce qu'il avait rencontré Dieu sur les hauteurs. La gloire divine avait probablement, passez-moi l'expression, mais irradié sa peau, de sorte que la lumière rayonnait sur sa face. Il s'était passé une expérience formidable. Vous savez qu'on se souvient du même phénomène, là, Moïse à Sinaï, mais sur la montagne de la Transfiguration. Il nous est dit qu'à un moment donné, c'est expliqué dans Matthieu 17, verset 2, qu'ils sont montés sur la montagne et que le visage de Jésus était resplendissant de gloire. Vous connaissez l'histoire, hein, naturellement. Cependant, Moïse savait ceci, je dis bien Moïse savait ceci, que cette gloire allait peu à peu se dissiper, alors il a couvert son visage d'un voile. Ouais. Et pourquoi l'a-t-il fait? Et quelles sont les raisons pourquoi il a couvert son visage d'un voile? D'abord, non à cause de lui, hein, parce que ça ne le gênait pas d'être comme ça, naturellement, hein, mais à cause des Israélites qui étaient restés en bas. Vous savez, ils étaient restés en bas. Et de leur réaction qu'ils pouvaient avoir devant cette illumination. Surtout qu'ils n'avaient pas fait du beau travail, hein, en restant en bas. Et Moïse ne pouvait pas emmener tout le monde là-haut, hein, ça c'est sûr. Et Moïse, à ce moment-là, en se couvrant d'un voile, a fait preuve d'une grande sagesse, d'une sagesse divine. Je prends un exemple. S'il était redescendu resplendissant de cette gloire dont il était tout illuminé dans son contact avec Dieu, les gens auraient dit, et ils auraient vu, ils auraient dit, ah, oh, quel homme de Dieu exceptionnel que ce Moïse, hein, vous rendez compte, il brille. Parce que vous savez, on aime bien voir briller, hein. On a tous des idoles, hein. Le monde a des idoles. Et ils brillent, les idoles. Même quand ils brillent pas par eux-mêmes, on leur met des spots. Hein. Comme ça, ils sont vieux. Hein. Alors, ils auraient dit, mais nous avons un homme extraordinaire, presque un dieu, naturellement. Hein. Et ils l'auraient peut-être adoré, parce qu'il venait juste d'adorer un veau. Hein. Eh bien, ils étaient prêts à adorer un homme. Vous voyez, ça va en crescendo. Hein. Et ça, c'est véritablement un antidote contre l'adoration des faux dieux, hein, toutes sortes de choses qui touchent à l'occultisme, hein, voilà, naturellement. Souvenez-vous de cet épisode également de Jésus après la multiplication des pains. Il avait fait quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, mais il s'était retiré. Il avait mis un voile, il s'était enfui dans la montagne, Jésus, parce qu'il voulait le faire roi. Quelque temps après, ils vont le crucifier, hein. Mais en attendant, il voulait le faire roi. Et c'est ça justement le problème. Et on va aller un petit peu plus loin dans notre réflexion parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Alors Moïse a couvert son visage parce que la gloire s'amenuisant, à ce moment-là, le peuple d'Israël aurait dit, alors on l'a vu en gloire, Moïse, mais comme c'est l'image de la loi qui est passagère, vous comprenez, tout le monde aurait dit, ah, eh ben il s'éteint notre pauvre Moïse, hein, il devient terne dans son visage. Donc il a perdu l'onction. Il a perdu l'onction. Parce que ça, c'est la caractéristique de la versatilité humaine. Vous comprenez? On ne fonctionne pas d'une manière spirituelle, mais on fonctionne avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Voilà, c'est humain. Hélas, c'est que nous faisons malheureusement nous-mêmes avec les hommes, eh bien, la même chose, les hommes que nous admirons. Tout va très bien, tant que la lumière brille. Vous comprenez? Alors on dit quel messager. Ah, oh, c'est un homme extraordinaire. Et faisons attention. Je voudrais vous rappeler ce matin que l'on suit Jésus. On ne suit pas un pasteur de talent. On ne suit pas un évangéliste de talent. On ne suit pas un apôtre de talent. On ne suit pas un homme. On suit Jésus. Parce que la gloire, c'est lui qui l'a, c'est pas nous. Et même si vous avez des évangélistes talentueux avec des miracles, des dons, des choses extraordinaires, ce n'est pas lui que nous suivons. Parce que ces dons, c'est un don. Un don, c'est quelque chose qui est donné. Et c'est Dieu qui lui a donné. Alors, ne nous méprenons pas, parce que là, on peut tomber dans l'idolâtrie. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça revient après quelque temps. Alors, les gens diront, et ils pouvaient dire avec Moïse, avez-vous remarqué son message? Quelle onction puissante sur son ministère! Quelle spiritualité, assurément, qu'a cet homme de Dieu! Et puis, quand il vient peut-être des difficultés dans la vie de cet homme de Dieu, parce que ça arrive à tout le monde, que celui que nous admirons, celui que nous vénérons, celui qu'on a porté au nu, s'il a quelque chose de difficile à traverser, à ce moment-là, une période, hein, compliquée, alors on commencera à murmurer les uns les autres, on dira, avez-vous constaté, finalement, sa prédication n'est plus inspirée? Parce que la lumière disparaît. Ça dépend où on situe la lumière, si on la situe en Dieu, ça bougera jamais. Mais si on la situe sur un homme, alors à ce moment-là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On dira, mais vous savez, il ne parle plus comme avant, ça nous dit plus rien, ce qu'il nous dit et ce qu'il nous enseigne et tout ça. Et on va juste s'empresser de dire, eh bien, il a perdu l'onction à ce moment-là. Vous suivez? Eh oui, ça c'est la loi. C'est la loi. Ouais. Parce qu'on va chercher les choses après. Et on n'est plus dans la note, on n'est plus dans l'esprit, on est dans la loi. Parce que je voudrais vous dire que la loi, que le voile qui couvre la gloire de la loi est bien éphémère. Et vous savez, si on fonctionne avec la loi, on aura des moments très forts. On aura des temps d'exaltation. On aura des moments qui seront comme si on descendait de la montagne. Hein. Mais on descend toujours de Sinaï. C'est pas Golgotha. Et à ce moment-là, eh bien, il faut s'attendre que tout cela, eh bien, disparaisse. C'est pour ça que quelquefois, et je voudrais l'expliquer, je l'explique avec bienveillance et avec amour, mes frères et mes sœurs qui avaient vécu des choses fortes, sur la base de la loi, le Seigneur vous dit maintenant, on reste plus comme ça, et qui peut-être avait cette nostalgie du temps passé. Nous avons tous vécu des choses extraordinaires, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on dit, on retrouve pas ça dans l'Église. N'allez pas dire qu'il n'y a pas l'onction. Non, nous sommes à l'école, frères et sœurs. Et une école où Dieu veut nous amener maintenant, non pas marcher par la chair, non pas marcher d'une manière charnelle, d'une manière humaine, mais nous amener véritablement une vie de l'esprit. Et vous savez, quand on est dans la dimension de la foi, c'est un abandon, on fait totalement confiance au Seigneur. C'est pas notre ressenti, c'est pas ce que nous entendons, c'est pas ce que nous voyons, c'est pas ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes qui est important, mais c'est nos convictions intérieures. Parce que nos convictions, elles s'appuient sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est spirituelle, elle est vivante. C'est pour ça qu'il y a une nostalgie quelquefois dans nos églises en disant « Ah, nous avions des pasteurs, nous avions des évangélistes, et tout ça, et tout ça. » Je ne juge pas parce que nous l'avons vécu nous aussi. Mais mes frères et sœurs, il faut aller plus loin maintenant. Le pédagogue nous a lâché la main. Nous ne sommes plus des enfants. Et nous devons par nous-mêmes avoir cette stature et cette maturité spirituelle parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus nourris avec du lait, mais nous voulons, et comme l'apôtre le dit dans Hébreux, nous sommes nourris avec de la viande solide maintenant. Quelque chose de constitué. Ne regrettez pas le passé. Ne regrettez pas peut-être certaines périodes où vous avez été transporté jusqu'au ciel. Je l'ai été moi-même. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. C'était des étapes. Même si je ne le vis plus maintenant. Même si je ne vis plus et ne marche plus avec des prophéties, des choses comme ça. Ça me fait du bien quand je reçois quelque chose qui me concerne personnellement. Mais je ne m'attends pas, je viens pas à l'église en disant, ce matin, parle-moi par une prophétie, parle-moi par ceci et cela. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas qu'à l'église. Il est en chacun d'entre nous, il est en moi. Et s'il veut me parler, il me parle directement. Je vois que vous êtes d'accord. Mais venez quand même à l'église. Parce que là... Seigneur, tu nous aides, hein. C'est pour ça que je voudrais consoler nos frères et nos sœurs qui ne voient plus les mêmes choses. Mais Dieu nous a pris les uns et les autres, et vous avez 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Mais attendez, le meilleur est devant nous, c'est pas derrière. Hein. Et vous allez faire encore de belles expériences, mais d'une autre nature. Le voile va disparaître parce qu'il est temporaire. Tout ça, ça va s'évanouir d'une manière ou d'une autre. C'est une gloire forcément transitoire. Un chrétien qui vit sous la loi et qui finalement, eh bien, y obéit à la lettre, peut certes, et c'est ce que je disais il y a un instant, peut certes subsister à force d'efforts et de discipline, tout en donnant l'impression d'une certaine vie sainte, d'une certaine sainteté, mais où est la liberté et l'épanouissement? Et c'est ça le fruit, la liberté, l'amour, l'épanouissement. L'épanouissement promis, n'est-ce pas un voile? Oui, n'est-ce pas un voile? Et le voile va disparaître. Je prends encore un exemple rapide, celui des deux frères de la parabole que Jésus nous laisse dans Luc chapitre 15, le prodigue et l'aîné. Connaissez le fils prodigue? Puis son frère de l'autre côté. Ah ça, c'est véritablement... L'un, c'est la grâce. Vous comprenez, je ne vais pas refaire encore la prédication. L'un, c'est la plénitude de la grâce. Il revient à la maison, son père le pardonne. Allez, on oublie tout ça et c'est fini. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu étais mort maintenant, tu es revenu à la vie. Et puis l'autre, aïe, 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 dur, hein. Mon frère, c'est pas mon frère, c'est un mécréant. Regarde, il a mangé toute ta fortune avec des prostituées et tout ça. Je vais pas me souiller avec lui, hein. Je rentre pas, hein. Lui, il est resté dehors, l'autre est rentré. L'autre est rentré parce qu'il a été véritablement reçu en grâce, et puis l'autre, il est resté dehors parce qu'il était complètement obnubilé par la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le premier, le prodigue, eh bien, baisse le masque. Il dit tout simplement, « Je suis un misérable, je suis un pécheur, je me suis trempé dans toutes sortes d'histoires qui me révulsent aujourd'hui, j'ai le dégoût de moi-même. » J'ai le dégoût de moi-même. Alors il baisse le masque. Tandis que le second, lui, se voile. Seigneur, tu sais, j'ai toujours travaillé pour toi. J'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela. Tu dois être content de moi parce que l'entreprise de la familiale n'aurait pas marché sans moi. Mais tu ne m'as même pas donné un agneau pour me réjouir avec mes amis. Et le père répond, mais tu es tous les jours avec moi, mais tout est à toi. Pourquoi tu ne te sers pas? Mes frères et sœurs, pourquoi ne vous nous servez pas dans les trésors de la grâce? Et que vous restez là, malheureux? Ils sont pour vous. Ils sont pour vous. C'est ça, justement. Allez-y, prenez. Je rappelle toujours cette petite histoire de la petite fille qui va dans l'épicerie. Vous savez, avec les bocaux de qu'on avait dans le temps, les plus jeunes ne connaissent pas parce que maintenant c'est autre chose. Mais les bocaux, vous savez, avec des bonbons dedans. Hein? Alors on arrivait, comme c'était juste au ras de notre nez parce qu'on n'était pas très grand. Alors on voyait ça, c'était le paradis. Hein. Des bonbons de toutes les couleurs. Et puis l'épicière dit à la petite fille, « Alors tu es bien gentille, ma petite fille, est-ce que tu voudrais un bonbon? Est-ce que tu voudrais des bonbons ?» Alors, voilà. Et puis à ce moment-là, elle lui dit, elle ouvre des bouchons, là, etc. Et puis l'épicière lui dit, « Mais vas-y, prends un bonbon. » Et prends-en plusieurs. La petite fille, elle a compris. Hein. Elle dit, elle n'en prend pas deux, elle n'en prend pas trois. Elle y va avec deux mains. Pouf ! Et elle retire tout ce qu'il y avait dedans. Eh bien, prenez à deux mains, voilà. Prenez à deux mains la grâce de Dieu. C'est formidable, c'est merveilleux, vous comprenez ? Alors que vous allez dans un magasin, vous allez passer à la caisse quand même, hein, de toute façon. Eh oui, prenez la grâce de Dieu. Servez-vous, c'est à vous. Vous êtes fils ou fille, est-ce que vous appartenez au Seigneur ? Tout ce que j'ai, nous dit Dieu, c'est à toi. Je vais terminer. Nous allons examiner le texte qui suit dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3. Nous revenons à notre texte, verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. La gloire véritable, celle qui est le fruit de la grâce, au lieu de disparaître, augmente sans cesse. Vous avez vu, la loi s'amenuise, la lumière, le rayonnement de la loi va disparaître, mais la grâce de Dieu, elle se multiplie de gloire en gloire. Ça, c'est formidable. Lorsque nous réalisons que nous devons être immergés dans la grâce, comme le prophète qui avait de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'à la taille. Et à un moment donné, Dieu lui dit, « Allez, vas-y, tu te lances complètement dans la rivière. » Et là, il n'est plus finalement immergé, mais il est submergé. Et il nage dans la grâce et dans le bonheur, dans le salut. C'est ça l'histoire. Hein. Alors, lorsque nous réalisons que nous sommes submergés et immergés dans la grâce, le voile est ôté. Et dans le miroir de la vérité, ce n'est plus notre gloire que nous contemplons, c'est-à-dire avec nos prérogatives, notre appel, le ministère ou le service que Dieu nous a donné, ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu uniquement, mais apparaît à ce moment-là dans le miroir, finalement, le visage glorieux de Jésus, la beauté de Christ en chacun d'entre nous. Ce n'est plus moi, mais c'est lui. Ce n'est plus moi, Seigneur, mais c'est toi. Et c'est bien la prière de Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Que lui grandisse. Et que nous devenions réellement ce à quoi il nous a appelés. Et que nos sentiments deviennent les siens. Soyez imitateurs de Jésus-Christ. Portez l'image de Christ. Revêtez-vous des sentiments qui sont en Jésus-Christ et les fruits qui sont les fruits qui nous sont proposés dans Galates, parce que là, à ce moment-là, ça change tout dans notre vie chrétienne. Les fruits de l'Esprit, je les rappelle ce matin, c'est l'amour. L'amour ne se développera jamais dans la loi. La loi, c'est quand vous attrapez une contravention Et c'est pas par amour que vous payez l'amende, hein. Je trouve un plaisir ineffable à me stationner où c'est interdit. Bon. Allez. L'amour, la joie. Soyez joyeux, frères et sœurs. La paix. On n'est pas des gens de querelle et des gens qui cherchent des histoires. Il y en a qui veulent chercher des histoires. Laissez-les. Oh, ça nous intéresse pas, on a autre chose à faire. La patience. Ouais. La patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il nous est dit, la loi n'est pas contre ces choses. Mais c'est une interprétation nouvelle, spiritualisée de la loi de Dieu. Jésus nous a dit dans le sermon sur la montagne, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu lui donner sa véritable dimension. Et c'est ça ce que nous avons besoin de comprendre en tant que chrétiens. Paul dit également cette belle parole. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En réalité, nous ne sommes que des vases d'argile, des vases de terre. Et qu'est-ce que nous contenons? Toute la question, elle est là. Est-ce que c'est la loi que nous portons? La loi, elle est dure. La loi, selon une image que nous avions développée il y a quelques années, c'est l'armature d'un corps humain, vous comprenez? Ce sont les os, parce que ça tient debout, ça nous tient debout. Alors que nous ne sommes pas faits qu'avec des os, il y a la chair. Il y a les articulations qui donnent de la souplesse à tout cela. C'est ça la belle image, en quelque sorte. Alors, parce que si nous restons que des os, que la structure, que l'ossature, à ce moment-là, nous devenons des juges et nous devenons la condamnation des autres. Mais quand on déborde de grâce, eh bien, c'est autre chose. Et vous savez, pour faire grâce et pour faire miséricorde, c'est de bien comprendre que nous, on nous a fait grâce et on nous a fait miséricorde. Christ est désormais notre vie et c'est encore lui. Finalement, qui nous remplit de lui-même, par son Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, nous dit l'apôtre, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez faire la volonté de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Non la liberté d'être dissipé. Parce que quelquefois, c'est une mauvaise interprétation de la loi de dire, eh bien, maintenant, je me suis affranchi de la loi, je fais n'importe quoi. Non. Ah non, attention. On ne devient pas amoraux. Je dis pas immoraux, je dis amoraux. En disant, ben, nous avons la permission, nous sommes libres, maintenant nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est pas ça. C'est pas la liberté d'être dissipé, mais la liberté véritable qui nous affranchit de l'esclavage de la loi. Et nous sommes des hommes libres et heureux. Et le voile disparaît à ce moment-là. Si nous regardons dans le miroir de la grâce, ouais, et non pas dans le miroir de la loi, alors à ce moment-là, les choses vont changer. Quelquefois, quand les gens demandent la route pour venir rue d'Ypres, alors je vous dis, souvent je leur dis comme ça au téléphone, je leur dis, vous avez derrière nous le tribunal, c'est la loi, et ici, vous avez le centre évangélique, c'est la grâce. Comme ça, ils se trompent pas. D'ailleurs, c'est fermé le dimanche. Je termine par cette parole. Dans Galates, toujours dans Galates, au chapitre 4, alors, chapitre 4, versets 8 et 9, on va faire un petit peu des petits sauts comme ça, 8 et 9. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retourneriez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore ?» Oui, nous avons été affranchis. Un peu plus loin, au verset 19, il est dit ceci également, cette parole. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est encore justement ce principe qui est développé. Et dans Galates 3, que je revienne à ce texte, et au verset 12 et 13, il est dit simplement cette parole. « Or, la loi ne procède pas... Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit celui, quiconque, est pendu au bois, afin que la bénédiction, celle d'Abraham, etc., etc., eh bien, nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, dans nos milieux charismatiques, et le Saint-Esprit nous amène à la vérité, à la liberté. Et c'est pas le contraire, il va pas nous ramener à la loi. Hein. C'est un affranchissement, naturellement. Et nous voulons maintenant avancer le visage découvert. Le visage découvert. Alors, je voudrais simplement dire une dernière parole. Frères et sœurs, vous savez la première lecture que nous avons faite tout à l'heure ? Il nous est dit qu'à la mort de Jésus, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas, et que c'était une porte ouverte, une voie royale, une voie de liberté qui nous a été ouverte à travers la foi en Jésus-Christ. Je voudrais simplement vous donner un dernier avis. De grâce, permettez-moi de le dire. De grâce, n'allez pas recoudre le voile qui a été déchiré pour vous. N'allez pas recoudre ce voile, puisqu'il a été déchiré pour que nous puissions passer, pour que nous puissions finalement, eh bien, avoir cette communion pleine et entière avec le Seigneur. Dernière citation de la parole. Nous ne faisons pas comme Moïse, dit un texte, qui mettait un voile sur son visage pour qu'Israël ne fixasse point les regards sur ce qui était passager. La loi est finie. Elle demeure, elle est bonne, sainte et juste, mais de la manière dont nous l'interprétons, tout peut changer. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et qu'ils ne se lèvent pas. Parce que c'est seulement en Christ que ce voile disparaît. Nous sommes des disciples de Moïse ou nous sommes des disciples de Jésus-Christ ? Répondez-moi. De Jésus. Parce que nous portons le beau nom de chrétien. Car, nous dit Romains, chapitre 10, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu qui est faite de foi et de grâce et non de loi, parce que le dernier mot est dit, parce que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Et nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la foi et non plus sur la loi, mes frères et sœurs. Alors soyez heureux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons qu'il y a des paroles nécessaires. Des paroles, Seigneur, qui ont traversé l'histoire de notre monde, l'histoire de la chrétienté, et qui sont des paroles, Seigneur, pour nous rappeler encore aujourd'hui que la plus grande chose donnée à l'humanité, le plus grand trésor de Dieu, le Jean 3,16 en quelque sorte, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons nous approcher de toi parce que tu nous as promis véritablement non seulement une effusion, Seigneur, de cette grâce qui affranchit, qui libère, mais qui nous conduit, Seigneur, aux fruits les plus excellents, tels que l'amour, tels que, Seigneur, eh bien, une transformation de notre caractère chrétien, mais cela, Seigneur, non pas en imitation d'une loi, d'une règle, d'une discipline, de préceptes humains ou religieux, mais, Seigneur, d'avoir un modèle qui n'est pas un modèle de l'être, mais un modèle vivant, parce que Christ s'est incarné dans un corps, et il nous a ouvert la porte, il nous a ouvert la voie. Alors, Seigneur, si nous devons comprendre les choses, c'est en esprit, et non pas selon la lettre, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Fais-nous vivre, Seigneur. Ouvre-nous l'esprit, donne-nous de bien comprendre cela, et nous serons des hommes et des femmes heureux par ta grâce et dans la foi. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.